Nous avons un fils. Il est roi. Nous sommes régents. Et nous possédons M. Mazarin comme Premier ministre. Tout va pour le mieux.
Bonjour, aujourd'hui cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à Anne d'Autriche, épouse Louis XIII et mère de Louis XIV. Comment Anne d'Autriche est-elle devenue régente absolue de la France? Question que nous nous posons cette semaine avec l'historien Joël Cornette. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la régente, avec son ministre Mazarin, a gouverné le royaume en tenant la barre dans les tempêtes de la Fronde.
Quand le roi a dû envoyer une armée contre celle que le prince de Condé avait formée à Bordeaux, et qui marchait sur Paris. Au cours de cette bataille, nos carrosses ont été entourées, assaillies. Et c'est miracle que le roi et moi, nous n'ayons pas été enlevés et faits prisonniers. Sans monsieur de Turenne qui nous a délivrés à temps, ce qui nous attendait, monsieur, c'était le couvent pour moi et pour mon fils la perte de son trône.
Pendant toute la période de la Fronde, qui plus d'une fois fait vaciller la monarchie, la priorité absolue de la régente est de préserver l'autorité royale afin de la léguer intacte à son fils. En 1651, la Fronde des princes fait rage contre le cardinal Mazarin, surnommé le Gredin de Sicile, dont le Parlement vient de réclamer le bannissement à jamais. Mais la régente elle-même n'échappe pas à la haine. Présentée comme la maîtresse de Mazarin et asservie à lui, traitée de putain, un pamphlet écrit par un proche du prince de Condé réclame sa destitution. Il faut, je cite, « lui lier les bras, il faut lui ôter toutes sortes de pouvoirs, il faut la mettre en tel état que nous ne soyons plus en état de la craindre ». Pourtant, Anne d'Autriche tient bon. En 1651, elle espère que l'événement qui s'annonce amènera enfin les princes à se soumettre et mettra fin à la guerre civile. Le 7 septembre doit être proclamée solennellement la majorité de Louis XIV qui vient d'avoir 13 ans. Ce jour-là, dans les rues de Paris, une foule nombreuse s'amasse pour acclamer le jeune roi qui passe fièrement à cheval pour se rendre au Parlement. En chemin, Louis XIV, tout d'or vêtu, fait cabrer son cheval arabe couvert d'une housse brodée de fleurs de lys. L'image impressionnante doit frapper les esprits et réaffirmer auprès du peuple la grandeur de la monarchie. Au Parlement, Anne d'Autriche prend la parole et déclare solennellement à son fils « Monsieur, voici la 9e année que par la volonté dernière du défunt roi, j'ai pris le soin de votre éducation et du gouvernement de votre État. À présent que la loi du royaume vous appelle au gouvernement de cette monarchie, je vous remets avec grande satisfaction la puissance qui m'avait été donnée pour la gouverner. » Louis XIV répond alors à sa mère « Madame, je vous remercie du soin qu'il vous a plu prendre de mon éducation et de l'administration de mon royaume. Je vous prie de continuer à me donner vos bons conseils et je désire qu'après moi, vous soyez le chef de mon conseil. » Anne d'Autriche passe le flambeau à son fils qui la prend dans ses bras. Elle n'est donc plus régente. Mais Louis XIV, qui n'a que 13 ans, vient d'exprimer haut et fort son souhait de voir sa mère poursuivre son œuvre à la tête du royaume. Une preuve de confiance qui réaffirme la légitimité d'Anne d'Autriche.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Si vous saviez comme nous avons souffert. Et maintenant c'est fini. Quelle vie dangereuse et lugubre fut la nôtre.
Mais à partir de 1653, c'en est fini de la Fronde. L'autorité royale est restaurée et la paix revenue à l'intérieur comme à l'extérieur de la France. Désormais, Anne d'Autriche, avec le sentiment d'avoir accompli sa mission, s'efface derrière Mazarin, qui gouverne, et qui enseigne à son filleul, le jeune Louis XIV, son métier de roi. 1661 est une année décisive, celle de la maladie de Mazarin, qui avant de mourir, rédige son testament où il rend hommage à Anne d'Autriche pour, je cite, « sa fermeté incroyable ». Le lendemain de la mort du cardinal, Louis XIV annonce à sa mère qu'il entend désormais gouverner seul.
« Madame, jusqu'à ce jour, j'ai laissé gouverner mes affaires par mes ministres. Désormais, je régnerai seul. »
Anne d'Autriche n'a plus que 5 années à vivre. Joël Cornette, Anne d'Autriche va affronter la mort avec le même courage qu'elle l'a fait toute sa vie.
Oui, c'est vrai que le dernier chapitre est consacré à ce moment très douloureux de la maladie de la reine qui apparaît dès 1664 au moment des fêtes des plaisirs de l'île enchantée.
C'est un cancer du sein.
Un petit nodule sur son sein gauche et au début, pas d'inquiétude, mais très très vite ce nodule se transforme en cancer du sein. Et c'est vrai que les derniers mois de la reine sont une épreuve qu'elle va prendre presque comme une épreuve christique, une épreuve donnée par Dieu en quelque sorte. J'ai retrouvé les remèdes, vous imaginez la médecine,
ouais.
Un cancer du sein au XVIIe siècle.
Et oui, on lui ouvre le sein à vif.
On lui ouvre la plaie de son sein qu'on essaie de pétrifier avec des lames de rasoir. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je l'explique dans mon livre. On a une source très intéressante qui est
intéressant d'un point de vue de l'histoire de la médecine aussi.
Le doyen de la faculté de médecine de Paris, qui pratiquement au jour le jour nous renseigne justement sur la manière dont Anne d'Autriche a été soignée. Mais elle l'a vraiment pris pour une épreuve, et elle qui était si proche de son corps, si je puis dire, si avide de cette propreté, de la beauté de son corps, c'est vrai que cette fin de vie est tout à fait terrible. Mais c'est vrai qu'elle a tout donné pour son fils, d'une certaine manière. Vous avez eu raison d'insister sur le fait que, même quand son fils devient majeur, à 13 ans, Louis XIV continue, évidemment, à faire que Mazarin et sa mère continuent à régner. Et ce règne a perduré jusqu'à la mort de Mazarin, le 9 mars 1661. Et d'ailleurs, dès le lendemain, là aussi, c'est une métamorphose. On a insisté sur la métamorphose presque du jour au lendemain d'Anne d'Autriche, de cette petite reine dans l'ombre de la cour, qui se réveille brutalement à la mort de son mari Louis XIII, eh bien Louis XIV rejoue finalement cette transformation. Le roi un peu timide, le jeune roi timide, personne n'imaginait que le lendemain de la mort de Mazarin, il décide, voilà, désormais tout doit passer par moi, je n'ai plus besoin de principal ministre, je suis le roi. Et Louis XIV a vraiment vu sa mère, a vu Mazarin, et leur enseignement, finalement, il s'en sert pour son propre pouvoir. Et justement, j'ai voulu dans mon livre montrer cette continuité de l'État, au-delà même des ruptures, au-delà des fractures, y compris celle de la Fronde, cette raison d'État qui continue tout au long du siècle et que Louis XIV va développer aussi.
Vous dites à un moment, c'est un moment assez extraordinaire, vous citez la duchesse de Montausier, qui était la gouvernante de Louis XIV, qui lui dit
oui,
après...
Oui, de son fils.
Ah, c'est son fils, oui. Qui lui dit, après la mort d'Anne d'Autriche, sa mère méritait d'être mise au rang de nos plus grandes reines.
Voilà.
Et Louis XIV répond,
voilà.
Je vous laisse...
Louis XIV a cette formule extraordinaire, non, des plus grands rois. C'est-à-dire qu'il a érigé sa mère. En roi. Vous me direz, il masculinise le pouvoir.
Oui, c'est un peu bizarre, mais voilà. En même temps,
mais
c'est une manière
temps,
de
il
la...
Il reconnaît en elle quelque chose d'extraordinaire, finalement. Elle a tenu l'État, elle a été l'État. Alors, Louis XIV n'a jamais dit l'État, c'est moi. Hein. Mais il y a tout de même, dans cette vie d'Anne d'Autriche, quelque chose qui fait que, voilà, elle a incarné le pouvoir politique. Et il y a un des moments les plus terribles, finalement, de l'histoire de France, ces révoltes multiples qui ont failli emporter la monarchie.
Oui, vous racontez que pendant la Fronde, la régente emmène son jeune fils hors de Paris, à cheval, elle veut lui montrer son royaume.
Ils ont fait presque un tour de France.
C'est génial.
Ils sont allés en Normandie, en Bourgogne, en Guyenne, en Provence, et Louis XIV a eu aussi l'apprentissage, je dirais, concret. C'est presque une école de plein vent, si vous voulez. Une école politique à l'échelle du royaume. Et c'est ça aussi que sa mère lui a transmis.
Et c'est donc, vous le dites, c'est la fin pour longtemps d'un pouvoir féminin en France, quand elle n'est plus régente.
Il s'est passé là une petite fenêtre chronologique, si vous voulez, au moment de la Fronde, où le pouvoir a été incarné par des femmes.
C'est vrai qu'après la régente,
après la régente, c'est terminé. Le pouvoir masculin, si je puis dire, reprend les rênes du pouvoir et va le conserver jusqu'à la Révolution.
Merci beaucoup Joël Cornette, je conseille vivement la lecture de votre livre à l'écriture élégante, très riche et qui se lit comme un roman, Anne d'Autriche, la régente absolue, qui est paru en 2025 chez Gallimard. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée de Fanny Petit et Frédéric Martin. À la technique, Nicolas Delmas et Élise Christophe.